heures.
Avec le Covid, la guerre en Ukraine et la flambée des prix sur les biens de consommation courante et notamment l'alimentaire, la précarité est un phénomène en progression en Hauts-de-France. Elle touche également les étudiants de nos universités. Bar à soupe est une association fondée en 2022. Elle intervient auprès des étudiants lillois à qui elle propose des soupes solidaires afin de contribuer donc à lutter contre cette précarité alimentaire étudiante, mais aussi sensibiliser les étudiants aux bienfaits de la consommation de soupe. On retrouve l'équipe à son stand en fin de sa distribution sur la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq à la maison des étudiants.
Oui, donc c'est une association qui s'appelle Bar à soupe. Donc on a fondé cette association à deux. L'idée, c'est de préparer des soupes solidaires pour les étudiants.
Voilà, donc à partir d'un besoin que vous aviez ressenti.
Oui, en fait, le besoin, c'était au moment de la Covid. Moi, j'étais enseignant à l'université, donc on avait été sollicité par la vice-présidente, Emmanuel Jourdan-Chartier, qui nous avait alerté sur les conditions de vie des étudiants et puis essayer d'imaginer des solutions qui permettaient de venir en aide. Donc, le projet a germé. Nous, avant, on faisait des maraudes sur l'île. Et on s'est dit, pourquoi pas faire des distributions de soupe sur l'université, mais pas exclusivement destinées aux étudiants précaires, alors en priorité pour eux, mais aussi pour les autres, leur donner l'occasion de manger des légumes.
Donc là, on est juste devant les locaux de la maison des étudiants. Il y a des étudiants qui sont bien animés derrière et qui jouent à des jeux et qui mangent aussi. Est-ce que certains d'entre eux proposent de vous aider parfois ?
Alors il y en a. Le petit problème, c'est que c'est leur disponibilité. Nous, on prépare les soupes en journée. La veille de la journée du jour de distribution, on va récupérer les légumes, les nettoyer, les découper, les peser. Et donc ça, on le fait en journée. Donc les étudiants ne sont pas tellement disponibles. On fait cuire les soupes en journée aussi le mercredi. Mais par contre, il y en a de temps en temps qui viennent donner un coup de main le mercredi midi ou le mercredi soir. Et puis, pour les distributions. Oui. Et puis, il y a une activité qu'Anna a démarrée depuis un peu plus d'un an, en partenariat avec un Resto du Cœur. Et tu vas peut-être parler un peu justement des ateliers qui sont faits avec les étudiants.
Oui, donc moi, j'ai un partenariat avec les Restos du Cœur pour déjà distribuer de la soupe en même temps que leur distribution à eux, qui se passe ici sur le campus. Et une fois par mois, on organise un atelier cuisine avec des bénéficiaires, étudiants bénéficiaires des Restos du Cœur. C'est un atelier qui est organisé en partenariat avec les Restos du Cœur et le Crous et nous. Et donc ça se passe bien. L'idée, c'est de montrer un petit peu aux étudiants de quelle façon on peut cuisiner les produits qui leur sont distribués par les Restos du Cœur. Et ça se passe bien, on a une dizaine d'étudiants, entre 8 et 10 étudiants à chaque fois. Et à l'issue de l'atelier, on mange tous ensemble.
Est-ce qu'il y a un planning qui est disponible pour ceux qui auraient envie de profiter peut-être de ce que vous proposez ?
Donc les distributions de soupe, c'est tous les mercredis à midi devant la MDE. Donc on est là à partir de 11h30 et on part vers 13h. Et le soir, c'est devant la résidence Gallois à partir de 18h30 jusqu'à à peu près 20h.
On a effectivement un fichier sur lequel les gens, les bénévoles peuvent s'inscrire à l'avance. Alors on envoie l'adresse du fichier à ceux qui en font la demande et ils peuvent nous contacter à notre adresse email qui est barasoup.solidaire@gmail.com. Donc ils nous demandent et on leur envoie l'adresse du fichier partagé où ils peuvent voir les différentes activités et s'inscrire.
Est-ce qu'en région de France, vous avez d'autres points de rendez-vous ou est-ce que vous êtes en lien avec d'autres assos du même type ?
Alors en Hauts-de-France, je pense qu'on est les seuls à faire un petit peu ce type d'activité. On appartient à un collectif qu'on appelle des acteurs de l'aide alimentaire qui a été mis en place par la vice-présidence de l'université et où on retrouve les principaux acteurs de l'aide alimentaire, gros ou moins gros. Nous, on est un petit acteur. Notre spécificité, c'est qu'on fait de la transformation. La majeure partie des autres font de la distribution, de surplus, d'invendus. Nous, on essaye de les valoriser et de faire du qualitatif en distribuant des soupes. On n'a pas les moyens pour l'instant d'être présent ailleurs. On aimerait bien, mais on est un peu limité par la capacité de production et puis par les bras qui pourraient nous aider à mettre en place des distributions. Donc, s'il y a un appel, s'il y a d'autres campus qui sont intéressés, nous, on est tout à fait ouverts à partager notre expérience et ça sera avec plaisir qu'on verrait des initiatives de ce type démarrer sur d'autres campus de l'université.
Depuis 2022, comment vous ressentez l'évolution des besoins des étudiants par rapport au fait de se nourrir ?
Comment on la ressent ? Alors, nous, le premier problème, c'est l'information des étudiants. Comment les toucher pour les informer qu'il y a ce service qui est mis à disposition. Donc, c'est vrai que les premiers temps, il y a un peu de méfiance, mais qui est légitime, comme partout, quand on les interpelle, quand ils viennent ici à la cafétéria ou autre. Et bon, ils sont un petit peu méfiants. Et en fait, l'information circule surtout de bouche à oreille. Et ce que nous, on a pu observer, c'est que les gens viennent plus spontanément qu'au début. Ils sont moins méfiants, je suppose, parce qu'ils voient qu'il y a d'autres étudiants qui viennent. Et nous, on communique très peu sur l'aspect précarité, même si ça reste une forte préoccupation pour nous. En fait, on voit de plus en plus d'étudiants qui viennent, mais qui viennent surtout pour le plaisir, soit d'avoir un petit moment de partage, ça c'est nos distributions de soir, où les étudiants ont plus de temps, soit de déguster des soupes, et par expérience, quand ils viennent, ils reviennent et ils parlent, parce que nous, ce qu'on entend, c'est qu'ils trouvent que les goûts sont très bons.
Alors, chaque année, le 1er mai, il y a une fête de la soupe à Lille. Est-ce que vous y avez contribué ?
On l'a fait pendant 2 années. Et là, ça fait la 2e année où on ne le fait plus parce que, d'une part, on n'y trouvait pas, nous, notre compte. Et si on y participait, c'était pour faire passer le message de Bar à Soupe. Et ça, ce n'était pas possible dans le cadre de cette fête, ce qui est très agréable par ailleurs, mais on n'avait pas tout à fait notre place. Voilà.
Bar à Soupe collecte donc des légumes moches, des invendus, des surplus de production, sous forme de dons ou à des tarifs préférentiels. Elle les transforme lors d'ateliers participatifs ouverts à tous et les distribue en soupe au public étudiant. L'équipe nous fait part maintenant de ses besoins pour poursuivre, sinon développer, ses activités.
Pour l'instant, on continue un peu sur notre lancée. À un moment, on parlait éventuellement de monter en puissance, mais c'est vrai qu'on est limité en capacité de production. L'université nous met à disposition une cuisine pédagogique à Polytech Lille, mais qui est quand même en priorité utilisable par pour les étudiants. Donc nous, notre inquiétude, ça a été que cette possibilité s'amoindrisse du fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui soient sur des projets à utiliser cette cuisine. Donc notre inquiétude, c'était d'avoir un local où, quand on ne peut pas préparer là, on puisse le faire sur l'université. On a fait un appel auprès du CROUS, auprès des différentes structures. On n'a pas eu de réponse. Mais c'est une demande qui reste constante et sur laquelle moi j'aimerais interpeller l'université, parce que je pense que c'est quelque chose d'original de montrer qu'on peut, dans des conditions sanitaires maîtrisées, préparer quelque chose de bon, attractif, et mettre en avant que c'est fait à l'université et grâce à l'université.
Est-ce que vous allez faire une soupe de rentrée pour marquer le coup ?
Alors on fait tout le temps des soupes à la rentrée. Donc nous, on a 15 recettes pour l'instant qu'on a développées. On a un petit fascicule que les étudiants et les personnels peuvent télécharger gratuitement. On a un QR code qui donne accès aux recettes. Donc on tourne sur ces recettes. On est sollicité en général à la rentrée pour participer au JVE.
Donc les JVE, ce sont les journées
d'intégration des nouveaux arrivants, où les différentes associations sont présentes, expliquent ce qu'elles font. Donc Nous, on est présents, c'est l'occasion de réexpliquer un peu ce que l'on fait. Et on aura certainement, alors peut-être pas une soupe spécifique, mais on tourne avec nos recettes. Et en septembre, on aura certainement une de nos 15 recettes à mettre en avant pour la rentrée, oui.
Voilà, toujours donc devant la maison des étudiants de l'Université de Lille à la Cité scientifique.
C'est ça. Et le soir, devant la résidence Gallois. Normalement au restaurant du cœur qui sont aussi, alors je ne sais pas encore pour combien de temps, à la résidence Gallois, donc sur la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq.
Donc avec des militants, des bénévoles évidemment, hein, qui prennent un certain plaisir à aider ces jeunes, à leur donner une soupe ou un morceau de pain, voilà, bonjour.
C'est même pas un certain plaisir, c'est un plaisir certain.
Voilà. Ça fait longtemps que vous participez à ce projet de soupe ?
Un an à peu près.
Et donc là, pendant les vacances, vous allez vous ennuyer ou pas ?
Oui, complètement.
Bon, en tout cas, la rentrée va se préparer, j'imagine. Vous allez vous ressourcer ?
Ben oui, je ferai des soupes à la maison.
Et vos petits-enfants apprécient, vos enfants ?
La soupe ? Oui. Ben, ils ne sont pas avec moi, mais je leur ai donné les recettes.
Bar à soupe, une idée associative qui pourrait bien germer dans d'autres universités des Hauts-de-France. N'hésitez pas à la faire connaître. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Me llamo Ella. Cuando estoy en Lille, escucho Radio Campus 106.6 y cuando estoy en España, escucho en www.campuslille.com.
Parce qu'aucune vérité ne blanchit la folie meurtrière. À qui garde sa dignité, n'écrase pas l'autre pour s'élever. Hommage à qui est fier. Qui pauvre ou fortuné, qui imparfait peut accepter qu'une vie à la sienne diffère. Qui s'est attardé à perdre un instant pour gagner une heure sur la misère. À qui a su donner sans craindre le mot charité sa goutte d'eau humanitaire. Hommage à qui cherche à comprendre, qui dans le bruit essaie d'entendre ce qui reste sincère. Cherche la vérité sans jamais se l'approprier, qui s'abandonne à sa lumière. Emportez les anges au ciel, mais laissez-nous l'illusion de cœurs encore humains sur terre. Sauve le monde à sa manière, à l'illustre anonyme qui, à défaut d'être populaire, s'affranchit de gloire mensongère qui mérite respect légitime, à qui peut encore rêver naïvement vagabonder aux forêts enfantines où les loups s'essoufflent, assoufflés, s'enfuient sous les champs entonnés, 2 millions de voix pour cet hymne.
Le 31 mai et le 1er juin, le festival chez Wamfest a eu lieu à Noyelles-sous-Bellonne, près de Douai. Lors de cette dernière édition, nous avons rencontré des membres du groupe lillois Lieutenant Cobb, Olivier à la batterie et David à la guitare et au chant.
Quand j'ai commencé, c'est plutôt en solo 2010, donc ensemble, c'est plutôt 2012-2013, je dirais, donc ça fait une bonne dizaine d'années.
Ouais. On a fait un petit break de 2 ou 3 ans,
voilà,
aux alentours du Covid, et puis après on a repris il y a 2 ans.
C'était juste avant le Covid, on a senti le truc arriver, on s'est dit bon, faut faire un truc là. Donc on a arrêté 2 ans et on a repris derrière.
C'est comme ça qu'on s'appelle un lieutenant, on prévoit
bien sûr, bien
d'avance,
sûr.
C'est normal.
Chef de troupe.
C'est pas par hasard, un lieutenant.
Oui, oui. Oui, pourquoi alors?
Alors voilà, justement. Alors c'est justement. À chaque fois on me demande pourquoi, enfin ceux qui me le demandent dans la rue, c'est pas non plus tous les jours. Donc lieutenant, ça vient d'un film de voilà. Yves Boisset qui s'appelait Canicule et qui se passe dans la Beauce, donc région parisienne, mais c'est une sorte de western français quoi. Et le lieutenant Cobb dans le film, c'est Lee Marvin en fait. Voilà, ok.
Ah oui, donc ça vient de là. Et,
ah ouais.
Et comment c'est né l'envie là de vous réunir et de faire du blues? Comment ça a commencé?
On se connaissait depuis un moment, on a joué dans divers groupes, même ensemble dans d'autres groupes. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais composer. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc en plus, il y a Richard maintenant à la basse et Antoine à l'harmonica. Donc on est 4. Formation, quand tu dis blues, mais c'est pas que blues. C'est-à-dire, ça va un peu plus loin que le simple blues, je dirais, basique, quoi. Même s'il y a une trame un peu blues, quoi.
Il y a beaucoup de mélodies, il y a des passages très rock. C'est un mélange, en fait.
Donc, c'est ensemble que vous composez ou il y a vraiment un leader, quelqu'un qui compose tout,
c'est
les morceaux?
À la base, je compose guitare-chant et après, on voit tout ça ensemble et puis on met ça en branle, quoi, si je peux me permettre.
Ouais,
et
vous avez un lieu pour répéter, vous réunissez souvent, alors là?
Oui, alors les lieux pour répéter, en ce moment, c'est sur Arras, mais avant, on était sur Oigny, et donc c'est toujours pas forcément facile de répéter, quoi. En tout cas, pour trouver le lieu, quoi.
Vous faites souvent des concerts, vous tournez beaucoup en région, là, et dans des festivals comme aujourd'hui?
Les concerts, on a repris depuis à peu près 1 an, et c'est vrai qu'on joue régulièrement, là, au moins 2 fois par mois en ce moment.
Ah oui, 2 fois par mois quand même.
Dans des bars, dans des festivals, ça dépend.
Si on revient sur le répertoire, qu'est-ce que vous racontez dans les chansons? Ça parle de quoi?
Rien.
Ça parle de rien?
Ça m'intéresse pas.
Non?
Non, les chansons, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mélodies. Un peu les textes, mais ça vient après la mélodie.
Il y a d'abord l'idée de la...
D'abord l'idée de la mélodie à la guitare, la musicalité, et après le texte vient tout le temps après, quoi.
Ouais.
Ce qui ne veut pas dire que je m'y intéresse pas, mais c'est pas l'élément moteur en tout cas en premier, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup, même en français, qui chantent en français, qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire poser d'abord la mélodie, la musique, et après le texte.
Généralement, voilà, on associe quand même le blues au contest song, à quelque chose de très social dans la revendication.
Là, c'est plutôt des situations de, je dirais, humaines en fait. Mais je veux dire de relations hommes-femmes, etc. Mais c'est pas vraiment. J'ai pas cette idée de.
Ce qu'on veut.
Je pense que ceux qui font du blues, ils ont quand même un vécu par rapport à ça. Moi, je l'ai pas, ouais. cette chose-là. Donc ça...
Ce qu'on veut faire passer comme message aussi, c'est la façon dont on compose, dont on présente la musique, les sentiments que les gens ressentent à travers nos mélodies, la puissance qu'on y met ou la douceur. C'est pas forcément les paroles, quoi.
Quand on travaille à 4, on se surprend encore. Est-ce que ça arrive dans le set qu'il y ait une surprise, qu'il se passe un truc? Ou alors vous connaissez tellement bien que c'est compliqué de vous attraper?
Non, il se passe des choses. Ça dépend. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un... Pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, hein,
ouais.
C'est jamais le même match. Ben, quand tu joues, c'est jamais le même set non plus. Il y a un moment donné, il peut se passer des choses.
Ça dépend du public.
Ça dépend aussi des gens.
Quand tu maîtrises ce que tu fais, tu t'exprimes. Bon, nous, quand on joue, on n'en est plus à réciter ce qu'on fait. Donc on joue, on s'exprime.
Ouais.
Donc on s'exprime différemment en fonction des gens qu'on a en face de nous.
Et à quel moment c'est que le morceau qu'on vient de créer, ça y est, c'est fini, il est bon, on peut l'offrir, on peut le partager?
C'est un ressenti à 4, si on se dit ça, tu le ressens, tu joues, tu dis il se passe un truc, on joue.
Ouais.
Si on sent au bout de 2-3 fois qu'il ne se passe pas grand-chose, bah, hop, tu mets de côté. Quoi.
David est très fort à ce niveau-là, il n'y a aucun affect, il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire il fait des morceaux, il les joue.
Si ça intéresse pas grand monde...
Si ça ne nous intéresse pas, on le dégage.
venez d'entendre un extrait du titre Come Alone du groupe lillois Lieutenant Cobb, un tout nouveau titre que le groupe appelle son single de printemps. Rencontré au festival Chewam Fest à Noyelles-sous-Bellonne, David et Olivier du groupe Lieutenant Cobb nous en parlent.
En fait, cette année, on a un projet, on sort un single par saison. Donc en janvier, on a sorti une single d'hiver. Là, dans les jours qui viennent, on sort le single de printemps. Il y en a un qui arrivera pour l'été et il y en a un qui arrivera pour l'automne.
Avec des arrangements, c'est aussi un travail studio qui est fait par rapport à ce que vous livrez sur scène. C'est autre chose, c'est une autre expérience, il y a autant de plaisir.
C'est moins brut, c'est moins instinctif que sur scène, mais David, c'est un super arrangeur.
En fait, l'idée de base, c'est la même, c'est-à-dire on enregistre à trois guitares, basse, batterie, donc c'est brut. Ouais. Par contre, après, moi, j'aime bien quand il se passe des choses dans l'arrangement, dans la réalisation, quoi. Si c'est pour faire exactement la même chose qu'en live, ça m'intéresse pas plus que ça.
Ah, vous faites une prise avec les trois instruments en même temps ou c'est
non, en trois en même temps. Guitare, basse, batterie. Enfin, chantez moins, après, on refait le chant, on refait des guitares. On fait l'harmonica, on fait des arrangements.
Pour le rock, c'est le minimum quand même, pour le rock blues.
Aujourd'hui, il se passe tellement de choses en studio.
Mais nous, on est des vieux,
on a des albums qui sont enregistrés sur différents continents, mélangés.
Il n'y a pas de numérique, nous, c'est que de l'analogique.
Et ça se fabrique où en analogique ici dans le coin?
En tout cas, les prises, c'est des prises micro, live. Après, les consoles, c'est certainement numérique, je pense, mais ça l'est d'ailleurs. Mais la façon de faire, c'est à l'ancienne, quoi, ça c'est sûr.
Ça change quelque chose, justement, de travailler à l'ancienne ou pour toi, ça fait sens au-delà du grain, de la profondeur du son?
On sait pas trop parce qu'on n'est jamais travaillé autrement.
Oui, et puis on le fait comme ça parce que ça nous paraît plus évident à la base, mais peut-être qu'on ferait autrement, ça marcherait aussi. Hein. Donc on n'a pas non plus d'a priori là-dessus. Hein.
C'est vrai.
Et puis l'harmonica, alors, comment ça vient à un moment donné de dire on met de l'harmonica
C'était un besoin. En fait, on a plutôt travaillé beaucoup à trois. Moi, je connaissais le père d'Antoine, parce qu'il avait enregistré quelques parties d'harmonica sur le premier CD que j'avais fait.
Qui était un très bon harmoniciste.
Très, très bon harmoniciste. Donc, il y avait son fils, donc on s'est dit, tiens, c'est marrant. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va travailler ensemble. Et puis, ça s'est fait comme ça.
Et surtout, on voit, nous, dans le groupe, on voit pas l'harmonica comme un harmonica classique. On l'utilise parfois comme une section de cuivre, parfois comme des parties de clavier.
Un bruitage ou des choses comme ça.
Un bruitage, il y a des pédales, c'est un harmonica 2.0. Ouais. Quoi.
C'est pour le coup, tu vois, le côté blues, c'est pas du tout dans le sens à l'ancienne. C'est à bord, parce que moi, le côté blues harmonica, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, les trucs enfin.
À partir du moment où ils trouvent une partie où on a envie de faire un feu de camp,
c'est pas bon, c'est...
ça nous intéresse pas.
Pourtant, vous essayez quand même de mettre le feu.
Ah, surtout Antoine, je peux te le dire.
Oui, lui, sur scène, il est très, très dynamique.
Attention. Hein.
C'est, contrairement à d'autres. Mais c'est vrai, il est... Mais c'est sa force aussi, la scène. Quoi.
Et oui, vous disiez, les morceaux, vous les testez sur scène, entre guillemets, déjà.
Non,
on les
teste en répétition. Tu vois un peu si ça fonctionne entre nous, tu te dis que ça peut fonctionner vis-à-vis d'autres gens. Quoi. Ça fonctionne pas déjà entre nous, il n'y a aucune raison d'aller le jouer, quoi. Par contre, après, t'as des réactions, t'as des gens qui préfèrent sans doute...
Et qui sont pas forcément les mêmes en fonction des endroits où tu joues. Donc si tu commences à choisir les morceaux en fonction du public, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Quand on présente un morceau aux gens, on est sûr que nous, on aime.
Oui, sinon, je pense que ça fonctionnera même pas vis-à-vis des gens, quoi. Si toi, tu as un doute sur le morceau, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des doutes aussi sur le morceau. Enfin, moi, je le sens comme ça, quoi.
Et puis, c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, rechercher votre couleur, entre guillemets, telle pédale d'effet, telle chose. C'est un peu ce que cherche chaque groupe aujourd'hui, justement, de ne pas être dans la norme numérique. Vous parliez tout à l'heure, vous faites attention à ça, vous faites au feeling, en fait, finalement, et vous avez votre propre couleur qui s'est faite.
Après, sur scène, c'est quand même assez brut. Hein. Bon, il y a un peu d'effet sur l'harmo, mais globalement, guitare, basse, batterie, moi, j'ai un son... Direct, ampli, quelques effets, mais très peu. La basse, pareil.
De toute façon, tu sais, ton son, c'est avant tout ta façon de jouer.
Oui, c'est surtout ça.
Tu as des pédales, tu peux en mettre 150. Ouais, c'est pas pour ça.
En général, plus t'as pédale, moins c'est bon signe. C'est assez direct, en fait. Moi, je pars du principe qu'il y a des choses que je sais faire et je vais plutôt aller dans le sens d'améliorer ce que je sais faire déjà. D'ailleurs, au bout de ça, plutôt que d'essayer de faire des choses que je ne sais pas faire.
Les prochains concerts, c'est quand est-ce que vous les avez en tête?
Alors là, le mois de juin, il va être consacré à un nouvel enregistrement chez Patrice Kubiak à Fache.
Après, je te mène une...
Studio K. Donc on va enregistrer quelques titres pour continuer l'histoire de...
Des singles.
Des singles, quoi. Donc en juin, il n'y aura rien. Donc en juillet, on reprend fin août.
On va jouer au Béthune Rétro Festival fin août. On va jouer sur Wani en septembre, sur Arras aussi, en septembre. On va jouer à L'Équin pour le 11h11. Je ne sais pas si vous connaissez avec Alex Mélis. Au Centre culturel de L'Équin, c'est le samedi matin à 11h11. Dans un auditorium magnifique.
Le dimanche, j'aurais pas pu, je vais à la messe. Donc,
Et c'est pas du tout le même public qu'en soirée, c'est très intéressant. C'est excellent. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça pour l'instant, c'est ce qu'on a de prévu.
C'était David et Olivier du groupe lillois Lieutenant Cobb qui est venu jouer au festival chez Wham Fest le samedi 31 mai 2025 dans le village de Noyelles-sous-Bellonne, près de Douai. Retrouvez toutes les infos sur le groupe sur les réseaux sociaux en tapant Lieutenant Cobb, C-O-B-B. Interview de Carole et Hervé et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
Se cacher derrière les rires. étoile contre l'absurde, l'inquiétant. Elle éclaire tout même le temps. Les pieds dans l'eau, c'est une rose. La tête dans le ciel, à peine close.
La femme pâle dans le noir et mon étoile dans le brouillard. La femme pâle dans le noir qui de ma voile dans le blizzard. Et se laisse vivre. Elle rayonne pour ses barges, de la côte jusqu'au large.
La femme pâle dans le noir et mon étoile dans le brouillard. La femme pâle dans le noir qui donne ma voile dans le blizzard.
En plein naufrage, sous un déluge, elle est ma bouée, mon refuge. Elle me fait rêver Camille, elle me fait toucher des comme si, elle me traîne jusqu'au bord et me fait conjurer la mort.
La femme pâle dans le noir et mon étoile dans le brouillard. La femme pâle dans le noir qui donne ma voix dans le blizzard.
Sa galère,
elle l'attend aujourd'hui comme demain. Elle, sa fidèle, son ange,
son ange,
son ange, gardien.
Épique, dantesque. Dans la poussière des pavés du Nord, les coureurs du Tour roulent à un train d'enfer. 13 km de souffrance.
En 2010, le Tour de France rentrait sur les pavés de l'enfer du Nord, un événement cycliste et populaire que raconte l'auteur Francis Taquet dans ses ouvrages « Les étapes du Tour dans les Hauts-de-France » aux éditions Nord Avril. L'auteur et passionné de cycliste était présent lors de la troisième étape des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix Hauts-de-France, ville départ de la troisième étape du Tour de France le 7 juillet prochain. Il raconte cette histoire d'amour entre la Grande Boucle et la région.
C'est une belle histoire d'amour parce que la région des Hauts-de-France et la région de Bretagne sont sans doute les deux régions qui sont les plus attirantes pour amener du public et regarder l'épreuve. Il y a un monde fou à chaque fois pour regarder passer les étapes.
Hein. Alors vous avez retracé, vous, cette histoire en 4 volumes ?
En 3 volumes. Le 4e volume va débuter en écriture cette année, avec le départ de Lille. Donc le premier tome, c'était 1906 à 1938, préfacé par Jean-Marie Leblanc. Il y a eu ensuite un deuxième volume, 1947 à 1977, qu'a préfacé Bernard Thévenet, qui avait gagné son deuxième tour en 1977, précisément. Et donc celui-ci, c'est 1978 à 2022, avec une préface de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Combien de temps pour faire ce travail de recherche ?
Alors le travail de recherche a pris quelques mois déjà. J'ai fait des recherches à Lille, à Dunkerque, à Roubaix. J'ai fait des recherches aussi dans les archives départementales du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, mais aussi à Paris, à la Bibliothèque nationale et sur le site du journal L'Équipe. Donc on va dire que tout ça, ça a pris à peu près 6 mois. Après, il a fallu confronter les informations et entre la presse nationale et la presse régionale. Alors pour écrire 3 livres, sans travailler 365 jours par an, quand même pas, hein, ça m'a pris 8 ans.
8 ans de travail, il faut aller chercher des archives évidemment, il faut contacter les organisateurs, les groupes.
Les archives, Là, il faut quand même regarder avant de faire le déplacement pour prendre ses repères et savoir sur quels journaux on peut s'appuyer. Après, les organisateurs du Tour, proprement dit, ne m'ont pas forcément aidé. C'est plus des témoignages d'anciens champions que j'ai cherchés et j'ai pu établir des contacts avec eux au fil du temps, les rencontrer ou avoir des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir avoir leurs témoignages sur ce qu'ils ont vécu dans la région.
Et on a des très beaux témoignages de cyclistes régionaux qui ont roulé sur leur terre. Et il y a une fierté, il y a une émotion. Quel ressenti ?
Alors pour les champions régionaux, c'est toujours comme beaucoup de champions dans d'autres régions, un moment fort quand on est chez soi. Alors je vais prendre l'exemple de Laurent Desbiens, qui est Lillois et qui avait participé au prologue à Lille en 1994. Et il m'en a parlé, c'était un moment très fort. Pour remonter encore un peu plus loin dans le temps, il y avait Henri Duez, qui est récemment décédé, qui était passé à Béthune, son fief, à l'avant du peloton. Il avait le bon de sortie qui lui était accordé par l'ensemble du peloton. Donc il a eu l'autorisation de partir en avant, de traverser Béthune seul, et il a fait un triomphe.
Et des cyclistes plus contemporains aussi, Adrien Petit ?
Alors Adrien Petit, effectivement, il a un secteur pavé à son nom maintenant qui a été baptisé dans le Cambrésis. Et en 2022, le Tour est passé sur ce secteur pavé. Donc pour lui, c'était un temps fort aussi.
Est-ce que les cyclistes ont témoigné aussi de l'évolution aussi du Tour de France avec la région, les passages notamment? Est-ce qu'ils ont été plus compliqués
Plus compliqué, je vais aller rechercher les propos qu'avait tenu Raymond Poulidor auprès d'un journal écrit. Il avait dit que prendre les pavés de leur temps, Raymond Poulidor, donc c'était plus facile parce qu'il y avait toujours des bandes qui étaient aménagées sur les côtés, des bandes goudronnées ou des trottoirs, parfois même des chemins en terre, mais ils pouvaient éviter les pavés assez souvent. Par contre, les coureurs maintenant, quand on leur propose les pavés, c'est comme sur Paris-Roubaix, ils ont l'intégralité des pavés, il n'y a pas beaucoup de place en dehors des pavés proprement dit. Donc de l'avis de Raymond Poulidor, c'était plus facile pour eux, donc c'est plus difficile maintenant.
Lance Armstrong dans la tourmente, également victime d'une crevaison, l'Américain se bat seul.
Francis Taquet nous livre quelques anecdotes de course recueillies pour sa série de livres sur les étapes du Tour dans les Hauts-de-France.
Et à Arenberg, c'est le Norvégien Uchov qui s'impose. Mais la bonne affaire est pour Andy Schleck. Le Luxembourgeois reprend de précieuses secondes sur ses rivaux.
Et là, j'avais parlé d'Henri Duez à Béthune, c'était une anecdote. Après, c'est effectivement les souvenirs qu'ont les différents champions quand ils passent chez eux. J'ai le souvenir aussi d'avoir lu qu'à Auxil-Château, il y avait un champion qui s'appelait Raymond Hourelbeck. Et les spectateurs sur le bord de la route, par une journée très chaude, lui tendaient des canettes de bière. Donc il avait bu de la bière, il avait même bu du Porto lors d'une autre étape. Et il est arrivé, il n'était plus très frais quand il est arrivé au terme de l'étape.
Et la météo aussi, elle a causé de nombreux soucis aux cyclistes. On pense notamment à cette étape dantesque avec cette arrivée à Wallers-Arenberg.
Oui, donc en 2014, il faisait un temps exécrable entre Ypres et Arenberg. C'est le jour où Chris Froome, qui avait déjà gagné le Tour, qui espérait bien le remporter à nouveau cette année-là, a dû abandonner. Il avait déjà fait une chute la veille entre Le Touquet et Lille. Et là, il est tombé à nouveau à deux reprises. Il a abandonné à Saint-Gain-en-Mélantois. Bon, au-delà de ça, il y avait Vincenzo Nibali, qui était maillot jaune et qui a surpris beaucoup de monde parce qu'il n'avait jamais fait Paris-Roubaix. On se demandait comment il allait se comporter sur les pavés. Alors, sans gagner l'étape, il a fini quand même dans les tout premiers et ça l'a conforté au classement général. Et à partir de ce jour, c'était un client sérieux pour la victoire finale. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a gagné le Tour.
Et le regard des habitants de la région sur le passage du Tour de France, il a évolué aussi ?
Écoutez, là je suis peut-être pas assez âgé pour savoir comment les gens appréhendaient autrefois. Ce qui est notable, c'est qu'à une certaine époque, tout le monde n'avait pas la télé. C'était avec la radio qu'on écoutait la retransmission des étapes. Et les gens étaient très ravis d'aller sur le bord de la route quand le Tour passait près de chez eux. Bon, maintenant, de nos jours, il y a des tas de possibilités pour s'informer. Et les gens vont volontiers, on voit qu'il y a un monde fou, mais on est dans la perspective de l'immédiateté et on se projette vite sur un événement autre dès qu'un événement comme ça est passé.
Votre travail d'auteur, c'est presque un travail d'enquête, non ?
Oui, c'est une partie enquête, même des gens qui disent que c'est un travail d'historien. Alors effectivement, j'ai fait tellement de recherches que, qui plus est, étant en retraite, je m'y suis consacré quasiment à temps plein. Et c'est vrai que de par ce fait, je vois les choses autrement. Maintenant, j'ai aussi appris beaucoup sur l'histoire de la région, en dehors du simple aspect sportif.
Qu'est-ce que vous avez appris sur la région ?
Ben, j'ai appris que certains sites, par exemple, sur lesquels les coureurs sont passés, n'ont plus du tout la même physionomie. Je pense à Maubeuge, qui n'est pas très loin de Valenciennes. Hein, Maubeuge a subi les bombardements pendant les guerres. Et pendant les tours des années 1910, il y avait des contrôles de ravitaillement qui se faisaient sur la place d'armes de Maubeuge, dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Cygne. Et des cartes postales représentent cet hôtel, mais Maubeuge ne ressemble plus du tout à ça. Donc, de ce côté-là, je me suis intéressé à l'histoire de Maubeuge.
Le Tour de France fait partie de l'histoire de France.
Le Tour de France fait partie du patrimoine français. Hein, donc, tout comme les Jeux Olympiques quand ils se passent chez nous. Bon, le Tour de France, c'est aussi l'un des trois grands événements à l'échelle mondiale, avec la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Donc, c'est un élément important du patrimoine français.
Et le voilà qui arrive à Wallers, avant l'entrée, l'arrivée donc jugée avant la forêt d'Arambert.
Nous sommes en 2014, cinquième étape du Tour de France, Ypres-Arambert.
Devant la force de Lars Boom, eh bien, tout le monde va devoir s'effacer, reconnaître le vainqueur du jour. Voilà la gueule noire qui sort de la force de Lars Boom.
Vous parlez d'enquête tout à l'heure, l'enquête continue cette année, puisque le départ aura lieu à Lille. Et depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de départ en France. Et c'est un honneur de le recevoir ici. Vous le ressentez, vous, déjà, cette ferveur du passage du Tour de France, du démarrage même du Tour de France dans la région de France?
Oui, bah, la ferveur, elle est déjà là. Beaucoup de gens en parlent. Hein, et puis, c'est vrai qu'on s'y prépare. Il y a plein d'endroits où on trouve des éléments pour faire informer les gens que le Tour va démarrer bientôt à Lille.
Et vous, qu'est-ce que vous allez faire, du coup, pendant ce Tour de France ?
Mais pendant le Tour, je vais aller sur les points de départ des étapes. Et je vais chercher à rencontrer d'anciens champions pour pouvoir avoir des témoignages en prévision de mes futurs écrits. Hein, et puis après, bah, je ferai comme beaucoup de gens, quand je serai chez moi, je regarderai les étapes à la télé quand elles se dérouleront ailleurs.
Alors nous sommes à Valenciennes ici pour le départ du Grand Prix des Hauts-de-France, les 4 jours de Dunkerque. Vous allez revenir à Valenciennes puisque Valenciennes est aussi ville et départ du Tour de France cette année.
Oui, j'y reviendrai pour ce moment-là et j'aurai aussi l'occasion d'y revenir dans le courant du mois de juin parce que j'ai lu la dictée du Tour aux élèves de CM1 et de CM2 de Valenciennes le mois dernier. Et il y aura une cérémonie de remise de récompense prochainement, donc j'ai été invité à venir et je viendrai volontiers.
Le Tour se décline sur toutes ses formes aussi pour aussi sensibiliser la jeunesse.
Oui, c'est un aspect effectivement du Tour. On veut sensibiliser les jeunes et au-delà du simple fait qu'il y a le Tour de France, il y a aussi l'idée de donner le goût aux enfants de faire du sport et faire du vélo. Bon, même en loisir, c'est quand même important.
Mettre les enfants en selle.
Oui, mettre les enfants en selle, leur apprendre aussi les règles de sécurité hein, pour qu'ils fassent de bons pratiquants du vélo.
La région de France est une terre de vélo pour les cyclistes, mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire aussi pour les cyclistes au quotidien?
Pour les cyclistes au quotidien, ben oui, au niveau sécurité, il y aura encore des éléments qu'il faut développer. Les pistes cyclables, il y en a, mais il y en a encore qui seraient à construire. Après, il faut aussi penser à l'entretien des pistes. Et ça, en tant que pratiquant aussi personnellement, je me rends compte assez souvent que les pistes cyclables sont couvertes de gravier, de cailloux et que ça engendre beaucoup de crevaisons. Et il faut voir aussi le comportement des automobilistes envers les cyclistes.
On est aussi au départ des 4 jours de Dunkerque à Valenciennes. C'est un échauffement au vu du Tour de France.
Une mise en bouche, on va dire, mais en sachant que les 4 jours de Dunkerque ont aussi leur histoire. C'est la plus grande épreuve cycliste dans la région hein, qui a lieu chaque année. Donc les villes attendent aussi avec impatience les 4 jours de Dunkerque quand on sait qu'il y aura un départ ou une arrivée dans cette même ville.
Le poing serré, il peut savourer. Il sait que derrière le duo de chez Astana ne reviendra pas. C'est le bonheur. C'est le bonheur pour le coureur néerlandais. Yes! Voilà, c'est fait et Lars Boom franchit la ligne d'arrivée dans quelques instants. Il franchit la ligne et il s'impose la douche de rigueur avant d'aller au protocole. Mais top, on va prendre
Francis
le
Taquet, auteur de la série de livres sur les étapes du Tour de France aux éditions Nord Avril. Rencontre réalisée à Valenciennes lors du départ de la troisième étape des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix Hauts-de-France. Ce reportage a été réalisé par Joris Nincens de Radio Club.
Parce que l'US Strava a perturbé tout le monde. Il n'y a aucun intérêt, lui. Et Cancellara pour les places d'honneur.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Cancellara. Et voilà. Kaczkowski qui fait une superbe opération aussi.
Kaczkowski, attention, attention, top 1.06 pour lui.
Votre compteur FM affiche 106,6. Alors vous êtes sur Radio Campus, la plus vieille radio libre de France. Radio libre et associative depuis l'année érotique de 1969. Vous pouvez consulter un médecin ou un psy, ou mieux encore, le site de campuslille.com. Vous allez y trouver les programmes, les archives, les dates de concerts, plein de choses intéressantes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci de votre écoute et à bientôt.
Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui et ceux qui comme lui lacèrent les cieux de mille feux sans article. Puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y.
Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda, Andalusia, Anda, Anda.
Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage.
La terre, j'ai vu les hommes voguer la mer, j'ai vu la jungle et le désert. J'ai vu les baobabs sauvages, j'ai vu les maquis sans leur cage et les pirogues sur le rivage. À 10 dans un taxi, j'essayais de voir un pays. J'en suis sorti abasourdi. Et l'on m'a dit: Velluma Vaza, souviens-toi de madame. Velluma Vaza. Velluma Vaza, je t'en prie, n'oublie pas. Ne nous oublie pas. J'ai vécu dans un bidonville. J'ai vu combien c'est difficile. À quel point la vie est fragile. J'ai vu l'homme blanc qui vide l'Afrique de ses diamants, de son granit. J'ai vu Bolloré logistique. J'ai vu un peuple se débrouiller pour ne pas finir affamé. Et le lendemain recommencer. Et le lendemain recommencer. Velluma Vaza, souviens-toi de madame. Velluma Vaza. Velluma Vaza, je t'en prie, n'oublie pas. Ne nous oublie pas. J'ai vu des hommes aux cheveux blancs, au bras d'une gamine de 15 ans, qui rêve de vivre en Occident. Sur des ordures en train de pourrir, j'ai vu des gosses jouer courir, mais personne pour les faire grandir. J'ai vu des gens dans la souffrance qui, face à l'indifférence, rêvent de changer d'existence. Dis-moi comment c'est la France. Velluma Vaza, souviens-toi de madame. Velluma Vaza. Velluma Vaza, je t'en prie, n'oublie pas. Ne nous oublie pas. Velluma Vaza, Velluma Vaza. Les hommes voguer la mer, j'ai vu la jungle et le désert. J'ai vu les baobabs sauvages, j'ai vu les maquis sans leur cage et les pirogues sur le rivage. Et les pirogues sur le rivage. Et les pirogues sur le rivage. Et les pirogues sur le rivage.